par la loi de 1848 sur l'abolition du timbre, des communications beaucoup plus nombreuses, donc il y a une explosion, j'ai envie de dire, liant la presse d'une part et l'espace belge dans son contexte d'autre part, qui favorise l'émergence de Texcom, le manifeste du Parti communiste qui sera concocté à Bruxelles par nos amis Marx et Engels en 1848.
Alors, on le disait, ils veulent passer véritablement à l'action, Marx et Engels. Comment pratiquement s'y prennent-ils? Ils tissent des réseaux, comment font-ils?
Alors, ils tissent des réseaux, oui. C'est-à-dire qu'il y avait le substrat d'une ligue, au départ, qui s'appelait la Ligue des communistes, qui va durer 4-5 ans sous sa forme, car il faut bien savoir que tous ces gens se disputent un jour ou l'autre. C'est très important de le souligner, sauf Marx et Engels, où je crois qu'il y a eu une espèce de pacte permanent, mais Marx s'est disputé avec tout le monde. Enfin, c'est quand même très important. C'était un homme, il faut lire ses lettres, qui était très, très isolé, même à la fin de sa vie. Bon, vous citiez ses lettres à ses enfants, le vieux Nick, pensait un peu à moi, mais il s'est isolé de beaucoup. On parlait de Bakounine, on parlait de Proudhon. Proudhon en France, qui est un petit peu l'homme de la coopérative, l'homme également qui a théorisé l'économie locale. On y revient à plus d'un titre, hein, c'est très amusant. Marx s'est brouillé avec tout le monde. Il faut voir les noms d'oiseaux qui s'échangent avec Proudhon. C'est d'une grande violence parfois. Donc, cette ligue est une espèce de substrat. Le manifeste prend, j'ai envie de dire, une espèce de forme, donne une forme plus intellectuelle et imprimée à cette ligue. Et ces réseaux, ma foi, il peut les tisser au ça d'un milieu d'exilés.
Et puis, il organise des débats, des conférences aussi. Est-ce que la pensée de Marx à ce moment-là, c'est-à-dire dans les années 1845, milieu du 19e siècle, est populaire, au fond?
Populaire, je ne dirais pas. Dans un premier temps, Marx, en 48, il a 30 ans. Mm-hmm. Donc on est quand même dans une période où il est extrêmement jeune. Jusque-là, il a écrit deux, trois choses, mais qui sont relatives soit à la philosophie de l'économie, très peu. On va dire que la diffusion populaire ne peut pas être encore considérée comme extrêmement grande. Pour ça, il faudra passer, j'ai envie de dire, aux années 1860-70. Et encore, parce que à la fin de sa vie, on commence progressivement à parler de marxisme. Et c'est le signe d'une popularisation. Quand un adjectif ou un nom commun, ça colle à votre nom propre, et lui-même dira, c'est très connu, je ne suis pas marxiste moi-même. Donc, il faudra vraiment attendre, je crois, quelques années plus tard pour voir un sursaut de sa popularité, ou du moins une entame très importante de cette popularité. Important aussi, il va y avoir deux, trois événements qui vont avoir lieu à la fin des années 1860, début des années 1870, qui vont catalyser sa popularité. À la fin des années 60, on a toute une série de congrès internationaux en sciences sociales. C'est très important, ça. Parce qu'il est considéré comme celui qui va permettre à la science de penser en matière de collectif, de social et de sciences sociales. Et les années 1860, c'est l'époque où les sciences sociales commencent à naître, où l'intitulé commence à être diffusé. Il y a une association internationale pour le progrès des sciences sociales qui se réunit où ? Tiens, à Bruxelles. Donc, il y a toute une série de facteurs qui montrent que sa pensée commence à sédimenter dans les esprits, informé. Je crois que l'homme de la rue, ma foi, l'association des sciences sociales, il ne s'y intéresse pas, il a d'autres problèmes sans doute dans la vie, mais il y a une sédimentation très claire à l'époque de ces idées. Et il y aura la Commune de Paris en 1870-71 qui va, je crois, vraiment constituer un bond dans sa popularité.
On va revenir à cette période de la Commune de Paris et puis juste avant aussi la guerre, le conflit franco-russe. Alors, il y a, on l'a déjà un peu évoqué, la misère. Lorsqu'il est en Angleterre, c'est la misère, vous l'avez dit. Marx alors, aura pourtant l'occasion d'être salarié, de gagner son argent en tant que salarié. Et il refuse ça. Et donc, il est jusqu'au boutiste. Pourquoi refuse-t-il le salariat?
Oh, il est jusqu'au boutiste, mais je crois que vous avez tout dit. Hein, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, il applique à bien les titres la théorie à la pratique. Il y a cet aspect-là. Il y a l'autre aspect très clair, qu'il est aidé par Engels au quotidien. Et Marx, d'une certaine manière, vivait très petitement dans une forme de misère qui est assez installée. Il va vivre de pige. Ça, c'est très important. Et cette fébrilité de l'écriture du quotidien, c'est quelqu'un qui écrit sans cesse. Hein. Il disait « je travaille comme un cheval », sous-entendu vraiment le cheval des champs qui, jusqu'à l'abattement, tirera ce qu'il peut tirer pour son propriétaire. Là, il va vraiment s'assimiler à cette espèce de bête de somme avec, comme je le disais, des piges qui vont avoir un succès dès les années 50 du côté anglo-saxon. Le New York Tribune, notamment, va le publier. En Angleterre, il va également avoir des accès. Il va être en guerre permanente concernant le paiement de ses piges. Ça, c'est quelque chose de très important. Mmh. Et là, il va commencer réellement à être connu comme un analyste économique, politique, en histoire, ce qui donne un peu son image d'homme total, ou un peu totémique et peu classable à Marx. Mais il n'est pas isolé, c'est très important de le dire. Quand on est en 1850, 60, 70, nous sommes à une époque où les disciplines scientifiques ne sont pas si cloisonnées qu'aujourd'hui. La plupart des grands observateurs des phénomènes actuels de l'époque étaient à la fois économistes, politistes, la politologie n'existait pas. Enfin, historien, c'était entendu. Non. C'était inconcevable qu'un économiste ne connaisse pas l'histoire. Les temps ont changé, faut-il croire. Donc, c'est quelque chose de très intégré à l'époque et qui nous semble un petit peu exotique, sans doute.
Le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la presse. On va se pencher avec vous sur les dernières années de Marx, Vincent Genin. Voilà quelques notes de l'International chantée en russe, chant révolutionnaire, dont les paroles ont été écrites en 1871 par Eugène Potier pendant la Commune de Paris. Musique de Pierre de Jeter. Donc d'abord le conflit franco-prusse. Mmh. Vincent Genin, Marx est un Allemand. Quelle est sa position sur ce conflit?
Alors sa position est assez claire. Selon lui, il y a quand même dans le mûrissement de la situation une responsabilité française ou du pouvoir de Napoléon III, jugé comme autoritaire, comme liberticide, même si à la fin de l'Empire, il y a eu un adoucissement. Hein. On parle d'Empire libéral, 1867-70, beaucoup d'historiens ont appelé ça l'Empire libéral. Napoléon III s'entend que le vent du boulet n'était pas loin, il a voulu un peu assouplir son pouvoir, mais pour certains, cela n'a pas suffi. Et c'est un analyste très fin de la situation, dans la mesure où, d'origine allemande, il a vécu à Paris, rue Vaneau, et d'autres endroits aussi, rue Jacob, et il parle en partie français, il faut lire ses lettres, hein. C'est très très bigarré, il en parle français, l'anglais, l'allemand, il est extrêmement varié, et il assiste à ce conflit, 1870-71, la défaite de la France, et d'ailleurs il n'est pas le seul intellectuel qui impute la responsabilité du conflit à la France. La plupart des juristes, des économistes de l'époque, si vous lisez ce qu'ils écrivent dans les revues paraissant, pour eux, la France est un grand responsable de cette situation. Il publie La guerre civile en France, hein, c'est un ouvrage qu'il sort à cette occasion-là. Comme 20 ans avant, il avait consacré un ouvrage à Brumaire et à Bonaparte, donc à chaque fois, il a une espèce de passion pour cette situation, et la Commune va être un moment, la Commune de Paris, qui est considérée comme une mise en action extrêmement primordial du communisme. Faut savoir que ça serait une référence très forte dans l'avenir. Le temps des cerises, hein, vous savez, c'est quelque chose d'extrêmement implanté dans la culture communiste. 15 ans plus tard, en 1886, quand en Belgique il y aura des grèves très nombreuses, des morts, des coups de feu, les premières lois sociales, on se réfère à la Commune. Donc c'est un moment extrêmement puissant. Et il y a ce bruit qui court dans Paris, pendant la Commune, en 1871, que Marx est là. Et ça va être une espèce d'ambiance extrêmement forte. Et là, on voit que c'est un homme public, plus connu.
Et ce texte, d'ailleurs, La guerre civile en France, sera un texte qui va avoir beaucoup, beaucoup d'écho. Il nous reste une minute, Vincent. Mmh. Il reste 12 années après la Commune à vivre pour Marx. Hein, il va publier des œuvres, notamment donc, Le Capital, qui seront traduites dans toutes les langues. En russe, il reste très sceptique. Marx, il ne croit pas à une révolution russe.
Oui, non. Il n'y croit pas. Et lorsqu'il est à la fin de sa vie, son œuvre n'est paradoxalement pas achevée. Il faut voir que de son vivant, la Russie commence à peine de se libérer du servage. Hein. Mmh. C'est 10 ans avant sa mort, enfin 20 ans avant sa mort. Et le processus est encore très lointain, vu que le tsarisme a encore quasiment 50 ans à vivre après lui. Non, la fin de sa vie est ponctuée par des déceptions, rupture avec Bakounine, rupture avec l'Association internationale des travailleurs, avec l'Internationale, hein, au fond, comme on l'appelle de manière différente. Également, rupture diverses avec sa famille, des distances, des méfiances parfois à l'égard de ses gendres, qu'il estime un petit peu comme trop avancés dans leurs idées, trop marxistes à ses yeux. Et puis, à la fin de sa vie, il y aura des déceptions, c'est l'inachèvement de son œuvre, Le Capital, et également son texte sur l'économie politique, Le Capital. On a un premier volume qui est sorti en 64, mais tout l'œuvre est inachevée. C'est Engels, après sa mort, qui la publiera bon an mal an, dans une prose peu accessible, où il va être question de